Tandis que je m'évertuais à corriger mes défauts, Plouffe menait les opérations de main de maître depuis notre QG de Chicago. Je ne le voyais pas très souvent, mais je me rendais compte peu à peu que nous avions beaucoup en commun, lui et moi. Nous étions tous deux réfléchis, pondérés, et nous avions tous deux une grande méfiance à l'égard des conventions et des faux-semblants. Mais alors qu'il pouvait m'arriver d'être distrait, indifférent aux menus détails, incapable de classer mes dossiers de manière rigoureuse, toujours à égarer les notes, le stylo ou le portable qu'on venait de me donner, Plouffe, de son côté, s'est révélé un véritable génie de l'organisation. Dès le départ, il s'était focalisé avec une obstination dénuée de tout scrupule sur un unique objectif, remporter l'Iowa. Même lorsque les chroniqueurs et certains de nos supporters nous traitaient d'idiots parce que nous avions cette seule obsession en tête, il s'entêtait à ne pas dévier d'un pouce de cette stratégie, persuadé que c'était notre seule chance d'atteindre la victoire. Plouffe imposait une discipline martiale à toute l'équipe, depuis Axe jusqu'au plus néophyte de nos collaborateurs, laissant à chacun une marge d'autonomie tout en leur demandant de rendre des comptes et de respecter le protocole à la lettre. Il avait plafonné les salaires afin de prévenir toute dissension inutile à ce sujet au sein du staff. Il veillait à ce que nos ressources ne soient pas dilapidées dans d'extravagants rapports de conseil et autres opérations médiatiques, mais dévolues au maximum aux besoins de nos équipes sur le terrain. Obnubilé par les chiffres, il avait enrôlé une poignée de petits génies d'Internet pour mettre au point une stratégie numérique qui avait des années-lumière d'avance sur les outils dont disposaient non seulement les autres candidats, mais aussi bon nombre de grandes sociétés privées. Résultat, en l'espace de 6 mois et en partant quasiment de rien, Plouffe avait monté un dispositif de campagne capable de rivaliser avec la machine Clinton. Il en éprouvait une sorte de jubilation tranquille. C'était un autre aspect de sa personnalité que j'avais découvert. Derrière sa façade de sobriété et ses convictions profondes, Plouffe adorait la bagarre. La politique était son sport de prédilection, et il était aussi compétitif dans ce domaine que Reggie sur un terrain de basket. J'ai demandé un jour à Axe s'il s'était douté que son associé junior ferait preuve de tel talent d'architecte. Axe a fait non de la tête. « Une putain de révélation », a-t-il dit. Quand on joue au niveau présidentiel, la meilleure des stratégies politiques ne vaut pas grand-chose si vous n'avez pas les moyens de la mettre en œuvre. Et c'était notre deuxième point fort, l'argent. Étant donné que les Clinton disposaient d'une base solide de donateurs dans tout le pays depuis près de 3 décennies, nous étions partis du principe que Hillary aurait une énorme longueur d'avance sur nous pour lever des fonds. Mais il s'est avéré que la soif de changement aux États-Unis était encore plus forte que ce que nous avions prévu. Très vite, nous avions mis en place un système de collecte de fonds qui suivait le schéma traditionnel. De gros donateurs dans de grandes villes signaient et récoltaient de gros chèques. Penny Pritzker, femme d'affaires et amie de longue date de Chicago, supervisait l'organisation du financement de notre campagne au niveau national, nous permettant de bénéficier de son savoir-faire en la matière, ainsi que de son large réseau. Juliana Smoot, notre directrice financière, aussi expérimentée que brute de décoffrage, avait monté une équipe d'experts et révélé un talent singulier pour m'obliger à courir en permanence après les dollars, usant tantôt de la cajolerie, tantôt de remontrances, parfois même de l'intimidation pure et simple. Elle avait un sourire irrésistible et un regard de tueuse. J'ai fini par m'habituer à l'exercice, en partie par nécessité, mais aussi parce que, au fil du temps, nos donateurs étaient de plus en plus réceptifs à mon message. Ce n'était pas une histoire d'ego ou de prestige, leur disais-je. Il s'agissait de bâtir un pays meilleur. J'écoutais leur point de vue sur tel ou tel sujet, surtout si c'était leur domaine d'expertise, mais je n'infléchissais pas le mien pour leur complaire. Et les mots de remerciement que je rédigeais quand j'en avais le temps, ou les coups de fil que je passais pour souhaiter un bon anniversaire, ce n'était pas à ces gens-là que je les adressais, mais aux bénévoles et aux membres de notre jeune équipe qui travaillaient pour nous sur le terrain. Et si jamais je gagnais, ils pouvaient s'attendre à ce que j'augmente leurs impôts. Cette attitude nous a valu de perdre quelques donateurs, mais a contribué à développer une culture parmi nos soutiens qui n'était pas fondée sur la recherche d'avantages ou de statut. Et quoi qu'il en soit, d'un mois sur l'autre, la physionomie de notre base de donateurs évoluait. Les petites contributions, par paliers de 10, 20, 100 dollars, ont commencé à affluer en masse, en général via Internet, de la part d'étudiants qui décidaient de nous reverser leur budget Starbucks pour toute la durée de la campagne, ou de grand-mères qui mobilisaient leur club de tricot pour récolter des dons. En tout, ces contributions modestes, additionnées sur l'ensemble de la période des primaires, allait représenter un apport de plusieurs millions de dollars, qui nous permettrait d'être compétitifs dans tous les États, dans chaque bureau de vote. Plus que l'argent proprement dit, l'esprit qu'on sentait à l'œuvre derrière chacun de ces petits gestes, cette impression palpable dans les lettres et les emails qui les accompagnaient, que chacun de nos donateurs reprenait à son compte notre campagne, a insufflé à celle-ci une énergie profondément citoyenne. « Il ne s'agit pas que de vous », nous disaient ces noms. « Nous sommes là, nous aussi sur le terrain, nous sommes des millions à travers tout le pays, et nous y croyons. Nous sommes tous impliqués. » Mais, plus encore que la force de notre stratégie opérationnelle ou que l'efficacité de notre collecte de fonds à l'échelon le plus individuel de l'électorat, un troisième élément nous a permis de tenir bon, tant au niveau de la campagne que du moral des troupes. Le travail de notre équipe dans l'Iowa et de son infatigable directeur, Paul Tooze. Paul avait passé son enfance à Mountain Lake, une petite ville de fermiers blottie dans le sud-ouest du Minnesota, un endroit où tout le monde se connaissait et où les gens veillaient les uns sur les autres, où les enfants circulaient partout librement à vélo, où personne ne fermait jamais sa porte à clé et où tous les étudiants pratiquaient tous les sports parce qu'aucun entraîneur n'aurait pu constituer une équipe complète autrement. Mountain Lake était aussi un bastion conservateur dans lequel la famille Tooze faisait figure d'exception. La mère de Paul avait éduqué son fils dans une allégeance au Parti démocrate que rien ne surpassait, sinon l'allégeance familiale à la foi luthérienne. À 6 ans, il avait patiemment expliqué à un camarade de classe qu'il ne devait pas soutenir les républicains parce que ta famille est pas riche. 4 ans plus tard, il avait versé des larmes de désespoir en voyant Jimmy Carter perdre la présidentielle contre Ronald Reagan. Le père de Paul était si fier de la passion de son fils pour la politique qu'il avait rapporté l'anecdote à un ami, le professeur d'instruction civique du lycée de la ville, lequel, sans doute dans l'espoir que l'intérêt d'un gamin de 10 ans pour les affaires de la cité allume une étincelle chez les adolescents avachis à qui il faisait cours, l'avait à son tour raconté devant toute la classe. Pendant plusieurs jours, les élèves plus âgés s'étaient impitoyablement moqués de Paul en lui adressant des grimaces de bébé pleurnichard chaque fois qu'il le croisait dans les couloirs. Mais Paul ne s'était pas découragé. Au lycée, il avait organisé une boum afin de récolter de l'argent pour les candidats démocrates. À l'université, il s'était fait engager comme stagiaire au bureau d'un élu de la Chambre des représentants locales, et Dieu sait comment, il avait réussi la prouesse, dont il tirait une fierté toute particulière, de faire basculer l'une des 2 circonscriptions de Mountain Lake en faveur de son candidat favori, Jesse Jackson, lors des primaires de l'élection présidentielle de 1988. En 2007, à l'époque où je l'ai rencontré, Paul avait travaillé pour à peu près tous les types de campagnes possibles et imaginables, depuis les municipales jusqu'aux législatives. Il avait été le directeur du caucus de l'Iowa pour Al Gore et le directeur national des opérations de terrain pour le comité de campagne sénatorial démocrate. Il avait 38 ans, mais en paraissait plus. Il était râblé, légèrement dégarni, et arborait une moustache blonde assortie à la pâleur de sa peau. Il n'y avait rien de très raffiné chez Paul Tooze. Il pouvait être d'un abord assez brusque et était toujours attifé comme l'as de pique, surtout quand venait l'hiver et qu'il s'emmitouflait, en bon ressortissant du Minnesota, dans toutes sortes de chemises en laine, doudounes et autres casquettes à fourrure. C'était le genre de type plus à son aise en compagnie d'un agriculteur dans un champ de maïs ou attablé devant un verre dans le coin d'un saloon qu'entouré de consultants politiques au salaire confortable. Mais quand on discutait avec lui, on s'apercevait très vite qu'il savait de quoi il parlait. Mieux encore, derrière l'intelligence tactique, la maîtrise de l'historique électoral de chaque circonscription dans les moindres détails et les anecdotes politiques, on pouvait, en tendant bien l'oreille, entendre battre le cœur d'un gamin de 10 ans animé d'une foi et d'une conviction capable de le faire pleurer à cause du résultat d'une élection. Quiconque s'est jamais lancé dans la course à la présidence vous le dira probablement. Remporter l'Iowa n'est pas une partie de plaisir. C'est l'un des quelques États américains dans lesquels est organisé un caucus afin de désigner le candidat que leurs délégués soutiendront. Contrairement aux primaires traditionnelles, où les citoyens expriment leur suffrage à bulletin secret et comme bon leur semble, un caucus s'apparente plutôt aux pratiques démocratiques d'une époque révolue, où les électeurs se rassemblaient à une heure bien spécifique dans un lieu donné de leur circonscription, en général un gymnase scolaire ou une bibliothèque, puis débattaient dans une ambiance bon enfant des mérites de chaque candidat, jusqu'à ce qu'ils tombent d'accord sur le nom du vainqueur. Ce genre de processus participatif avait ses qualités, mais il était extrêmement chronophage. Un caucus pouvait durer plus de 3 heures, et supposait que les participants soient bien informés, qu'ils acceptent de voter de manière publique et qu'ils soient suffisamment motivés pour y consacrer une soirée entière. Rien de surprenant dès lors si les caucus n'attiraient généralement qu'une frange réduite et immuable de l'électorat de l'Iowa, composé pour l'essentiel d'électeurs d'un certain âge, de fonctionnaires affiliés au parti et de vieux militants, lesquels avaient tendance à donner leur voix, la plupart du temps, aux candidats qui avaient déjà fait leurs preuves. Cela signifiait en l'occurrence qu'une personnalité bien installée dans le paysage politique comme Hillary Clinton avait beaucoup plus de chances que moi de remporter leur suffrage. Dès le départ, Toews a fait comprendre à Plouffe, et Plouffe à son tour m'a fait comprendre, que pour gagner dans l'Iowa, il fallait que notre campagne soit différente. Il nous faudrait travailler plus dur et plus longtemps, face à face avec les électeurs traditionnels, pour les faire basculer dans le camp Obama. Plus important encore, il faudrait convaincre de nombreux électeurs d'ores et déjà acquis à notre cause, les jeunes, les minorités visibles, les indépendants, de surmonter les hésitations que pouvaient leur inspirer les complexités d'un tel exercice et les pousser à participer à un caucus pour la toute première fois de leur vie. À cette fin, Toews a insisté pour que nous ouvrions tout de suite des permanences dans chacun des 99 comtés de l'Iowa. Chacune de ces antennes serait placée sous la responsabilité d'un jeune équipier qui aurait pour tâche, contre un salaire modeste et presque sans aucun encadrement au jour le jour, d'animer son propre mouvement politique local. C'était un gros investissement et un pari audacieux en ce début de campagne, mais nous avons donné le feu vert à Toews. Il s'est aussitôt mis au travail, entouré d'une formidable équipe de collaborateurs qui l'ont aidé à développer son plan. Mitch Stewart, Mary-Grace Galston, Anne Philippic et Emily Purcell, tous dotés d'une grande intelligence, d'une discipline de fer et d'une solide expérience acquise au fil de nombreuses campagnes, et tous âgés de moins de 32 ans. C'est avec Emily que j'ai eu l'occasion de passer le plus de temps. Née dans l'Iowa, elle avait travaillé pour l'ancien gouverneur Tom Vilsack. Toews s'est dit qu'elle me serait particulièrement précieuse pour naviguer dans les méandres de la politique locale. À 26 ans, c'était l'une des plus jeunes recrues du groupe. Brune, toujours habillée de manière décontractée et plutôt menue, elle aurait pu passer pour une élève de terminale. Je n'ai pas tardé à me rendre compte qu'elle connaissait pour ainsi dire tous les démocrates de l'Iowa et qu'elle n'avait aucun scrupule à me donner des instructions bien spécifiques à chacune de nos étapes, m'indiquant à qui je devais aller parler et quels étaient les sujets les plus sensibles dans telle ou telle communauté. Emily me livrait ses informations d'un ton monocorde, dépourvu d'affect, accompagné d'un regard qui vous faisait clairement comprendre qu'elle n'était pas là pour plaisanter. Une qualité qu'elle avait sans doute héritée de sa mère, qui avait réussi à suivre un cursus universitaire tout en travaillant pendant 30 ans à l'usine Motorola. Pendant les longues heures que nous passions ensemble sur la route, dans un van loué pour les besoins de la campagne, à courir d'un meeting à un autre, je m'étais donné pour mission d'arracher un sourire à Emily. Blagues, boutades, jeux de mots, apartés sur la taille de la tête de Reggie. Mais mon charme et mon humour venaient invariablement se fracasser sur le rocher de son regard imperturbable et indifférent, si bien que j'ai fini par me résoudre à me contenter d'obéir de mon mieux à ses ordres. Mitch, Mary-Grace et Anne m'expliqueraient par la suite en quoi consistait exactement leur travail, évoquant en particulier les réunions au cours desquelles ils devaient passer au crible les idées aussi peu orthodoxes que foisonnantes de Toews. « Il en avait 10 par jour », racontait Mitch. « 9 d'entre elles étaient grotesques, la dernière, c'était du génie. » Mitch, originaire du Dakota du Sud, était un grand type dégingandé qui avait déjà travaillé dans le cénacle politique de l'Iowa, mais qui n'avait encore jamais rencontré quelqu'un d'aussi passionnément éclectique que Toews. Quand il venait me parler de la même idée pour la troisième fois de suite, se rappelait-il, je finissais par me dire qu'il n'avait peut-être pas tort. Enrôlée Norma Lyon, Madame Bachamber, qui chaque année, à l'occasion de la foire de l'Iowa, sculptait une vache à taille réelle entièrement réalisée avec du beurre salé pour enregistrer une annonce où elle déclarait nous soutenir et la diffuser ensuite par haut-parleur dans tout l'État, génial. Elle a par la suite sculpté un buste en beurre de ma tête qui pesait 10 kilos, encore une idée de Toews, sans doute. Installer des panneaux publicitaires le long de l'autoroute avec des séquences de phrases qui rimaient à la manière des vieilles réclames pour la mousse à raser Burn My Shave dans les années 1960, il est temps de changer, alors un seul conseil, votez pour le type qui a de grandes oreilles, Obama 08. Moins génial. Promettre de se raser les sourcils si son staff parvenait à l'impossible, récolter 100 000 bulletins de soutien, pas génial non plus. Du moins jusqu'au moment, dans les tout derniers jours de la campagne, où l'équipe a réussi à dépasser la barre fatidique, après quoi cette idée s'est finalement révélée géniale. « Mitch aussi s'est rasé les siens », m'a raconté Mary-Grace. « On a des photos, c'était monstrueux. Tooze a donné le ton de notre campagne dans l'Iowa. De la proximité, pas de hiérarchie, de l'irrévérence et un zeste de folie. Personne, y compris les responsables du staff, les donateurs ou les dignitaires, n'était dispensé de faire du porte-à-porte. Les premières semaines, Tooze a accroché sur tous les murs de chaque bureau des pancartes sur lesquelles était inscrite une devise de son cru. Respecter, valoriser, inclure. Si nous avions réellement l'intention d'impulser un nouveau genre de pratique politique, nous a-t-il expliqué, alors ça commençait ici, à la base, par un engagement de chacun à écouter les gens, à respecter ce qu'ils avaient à dire et à traiter tout le monde, y compris nos adversaires et leurs partisans, comme nous voulions nous-mêmes être traités. Enfin, il insistait sur l'importance d'encourager les électeurs à se sentir impliqués dans la campagne plutôt que de se contenter de leur vendre un candidat comme un paquet de lessive. Quiconque désobéissait à ces directives se faisait réprimander, parfois même remercier purement et simplement. Un jour, durant notre téléconférence hebdomadaire, un nouveau venu dans l'équipe a fait une blague sur les raisons qui l'avaient poussé à rejoindre la campagne, évoquant notamment le fait qu'il détestait les femmes en tailleur-pantalon, allusion à la tenue vestimentaire préférée de Hillary pendant la campagne. Tooze l'a longuement admonesté, en veillant bien à ce que tout le monde l'entende. « Ce ne sont pas les valeurs que nous défendons », a-t-il dit, « même en privé ». Toute l'équipe a pris ses principes à cœur, notamment parce que Tooze était le premier à donner l'exemple. En dépit de quelques sautes d'humeur, il faisait toujours en sorte que les gens autour de lui aient conscience de leur importance. Quand l'oncle de Mary Grace est décédé, Tooze a décrété une journée nationale en l'honneur de cette dernière et a demandé à tout le monde de venir au bureau habillé en rose. Il m'a également fait enregistrer un message annonçant que, pendant une journée entière, il serait obligé de se plier à toutes les exigences de Mary Grace. Évidemment, celle-ci, de son côté, a dû passer 300 jours à entendre Tooze et Mitch mastiquer leur chic de tabac au bureau, donc cette mesure n'a pas totalement rééquilibré la balance. Tel est l'esprit de camaraderie qui régnait sur notre campagne dans l'Iowa. Pas seulement au sein de notre QG, mais surtout parmi les quelques 200 organisateurs que nous avions déployés dans tout l'État pour superviser les opérations sur le terrain. En tout, j'allais passer 87 jours dans l'Iowa au cours de cette année-là. Je goûterai aux spécialités culinaires de chaque bourgade, je jouerai au basket avec des gamins à la moindre occasion, et je subirai toutes les avanies météorologiques possibles, de la tornade à la tempête de grêle. Pendant cette période, ces jeunes gens talentueux, qui travaillaient sans compter leurs heures pour un maigre salaire, me serviraient de guide. La plupart sortaient à peine de l'université. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils participaient à une campagne et la première fois qu'ils étaient loin de chez eux. Certains avaient grandi dans l'Iowa ou dans le Midwest rural et connaissaient bien les mœurs et le mode de vie des villes moyennes telles que Sioux City ou Altoona. Mais ce n'était pas le cas pour la majorité d'entre eux. Si l'on avait rassemblé tous nos collaborateurs dans une seule pièce, on aurait vu se côtoyer des Italiens de Philadelphie, des Juifs de Chicago, des Noirs de New York et des Asiatiques de Californie. Des enfants d'immigrés sans ressources et des enfants élevés dans des banlieues résidentielles cossues. Des diplômés en ingénierie, d'anciens bénévoles du Peace Corps, des vétérans de l'armée et des jeunes qui avaient abandonné le lycée. En apparence, du moins, il semblait impossible de concilier cette diversité de profils avec l'ordinaire de la population dont nous cherchions désespérément à capter les voix. Et pourtant, un lien s'est bel et bien créé entre tous ces gens. Ils débarquaient en ville avec un sac de randonnée ou une petite valise, s'installaient dans la chambre d'amis ou le sous-sol d'un supporter local de la première heure, et passaient plusieurs mois à se familiariser avec leur nouvel environnement. Ils allaient rendre visite au barbier, posaient leur table pliante devant l'épicerie, prenaient la parole à l'antenne locale du Rotary Club. Ils participaient à l'entraînement de l'équipe de baseball junior, donnaient un coup de main aux associations caritatives et appelaient leur mère pour qu'elle leur fournisse la recette de son fameux pudding à la banane, afin de ne pas arriver les mains vides au grand pique-nique communal. Ils apprenaient à écouter les bénévoles du coin, qui étaient souvent beaucoup plus âgés qu'eux et avaient déjà un travail, une famille et leurs propres soucis, et à en recruter de nouveaux. Ils s'épuisaient tous les jours à la tâche et passaient par des moments de solitude et d'angoisse. Mois après mois, ils gagnaient la confiance des gens, et bientôt, ils cessaient d'être des étrangers. Quelle incroyable énergie j'ai puisée au contact de tous ces gamins pendant notre campagne dans l'Iowa. Ils me remplissaient d'optimisme et de reconnaissance et me donnaient l'impression qu'une boucle était bouclée. Ils m'évoquaient le jeune homme de 25 ans que j'avais été un jour, moi aussi, et qui avait débarqué à Chicago avec ses rêves confus et idéalistes. Je repensais aux liens précieux que j'avais tissés avec des familles du Southside, aux erreurs et aux petites victoires, à la communauté dans laquelle j'avais trouvé ma place, très similaire à celle que nos organisateurs sur le terrain étaient en train de se forger pour eux-mêmes. Les expériences qu'ils vivaient me rappelaient les raisons pour lesquelles je m'étais engagé dans l'action publique, ce qui avait fait germer en moi l'intuition que la politique pouvait peut-être ne pas se résumer à une question de pouvoir et de prise d'opposition, mais être d'abord et avant tout une affaire de communauté, de lien entre les gens. Nos bénévoles partout dans l'Iowa croyaient peut-être en moi, me disais-je. Mais s'ils travaillaient aussi dur, c'était surtout grâce à ces jeunes organisateurs. De même, c'était peut-être quelque chose que j'avais dit ou fait qui avait poussé ces gamins à rejoindre la campagne, mais désormais, ils appartenaient aux bénévoles. Ce qui les motivait, ce qui les faisait tenir, indépendamment du candidat ou de telle ou telle problématique particulière, c'était l'amitié, l'attachement, la loyauté mutuelle et le progrès né de l'effort collectif. Ça et leur boss colérique dans son bureau de démoine, celui qui avait juré de se raser les sourcils si jamais il réussissait.